VOA Afrique, les infos à Washington.
John Linden à la présentation. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. La Corée du Nord a qualifié samedi d'acte d'agression intolérable la frappe américaine sur un aéroport militaire syrien, un acte prouvant plus d'un million de fois, selon Pyongyang, la justesse de son programme nucléaire. Ce commentaire diffusé par les médias d'État constitue la première réaction nord-coréenne à l'attaque ordonnée dans la nuit de jeudi à vendredi par le président américain Donald Trump après un bombardement chimique présumé imputé au régime de Damas. Les membres du mouvement Iyina, en arabe local qui signifie « Nous sommes fatigués » et ceux du collectif « Ça doit changer » ont animé conjointement une conférence de presse ce samedi à la bourse de travail de N'Djamena, conférence de presse relative à l'enlèvement et à la séquestration de Najdo Kaina, porte-parole du dit mouvement et premier coordonnateur national de la coalition Tournant la page pour l'alternance démocratique en Afrique, détenu depuis le 6 avril dans les locaux de l'Agence nationale de sécurité. Ces organisations et la Fédération internationale des droits de l'homme exigent sa libération immédiate et sans condition. 5 personnes ont été tuées samedi dans le nord-ouest du Mali au cours d'une attaque visant un groupe armé Touareg et attribuée à des djihadistes selon des sources militaires maliennes.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burkina Faso, le tribunal militaire de Ouagadougou a condamné cette semaine 15 militaires à des peines allant de 3 mois à 17 ans de prison ferme pour l'attaque d'un dépôt d'armes en janvier 2016. Les armes volées devaient servir à libérer les généraux Gilbert Diendéré, ancien chef du régiment de sécurité présidentielle, et Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères. Pour analyse, Anastasie Tudiech a joint à Ouagadougou le coordinateur du mouvement citoyen Ça suffit, Aziz Zana.
Ce qui nous a paru très important, c'est d'abord l'effectivité du procès, parce que depuis près de 30 ans au Burkina Faso aussi, les différents procès n'ont jamais eu lieu. Nous sommes restés dans un pays où l'impunité a régné. Donc le fait que le procès ait déjà lieu, quel que soit le verdict, nous, c'est un fait de soulagement déjà.
Comment vous expliquez-vous que cette fois-ci, la procédure ait été jusqu'au bout?
Parce que nous avions travaillé au cours de la transition à rendre la justice plus ou moins indépendante. Et aujourd'hui, les autorités nouvellement élues ont fort conscience que sans justice, la réconciliation sera très difficile. Et sans justice, on pourrait revenir à une situation plus dramatique que celle du régime passé. Quant au verdict, elle peut être analysée de diverses façons.
Quelle est votre analyse à vous?
Nous pensons que l'analyse au niveau de la justice, elle est fiable. Donc aujourd'hui, il y a une indépendance de la justice. Donc nous faisons confiance à la justice. Et nous pensons que les différentes peines infligées au sergent chef Ali Kamoun, qui est le chef de ce complot-là également aussi,
Et au sergent Olo Stanislas Silver Poda.
Voilà Poda, qui est de 17 ans aussi. Nous croyons que, au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, nous croyons que c'est des peines acceptables. Le verdict rendu est juste dans la mesure où ces différentes personnes ont reconnu au cours du procès leur implication et les différents rôles qu'ils ont eu à jouer. Donc, pour nous, ça ne fait plus aucun doute. Et si ce n'est pas peut-être la peine du sergent Roger Koussoubé, qui est de 3 mois, c'est cette peine-là que certains de la population jugent un peu légère. Mais comme nous le disons toujours, la justice a eu tous les éléments pour mieux analyser.
Donc cette condamnation est une victoire de la justice et aussi une victoire de la société civile burkinabé?
Exactement, c'est une histoire de la société civile. Également aussi de la société politique. Quoi qu'on dise, c'est mis dans la main que nous avions travaillé avec la classe politique d'opposition d'avant. Également aussi, c'est une victoire aussi des réformes judiciaires que nous avons aussi amenées pendant la transition politique qui a eu lieu en 2015.
Aziz Zana, c'est la fin de ce bulletin d'information présenté par John Linden. Je vous reviens dans 55 minutes pour d'autres infos sur VO Afrique. D'ici là, restez à l'écoute de nos programmes. Bonsoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission incontournable de VOA Afrique, le monde au féminin, pour parler de l'entraide entre femmes et oui, la solidarité féminine. Avec moi dans le studio, Sylvie Doris Danga, présidente de la section femmes de l'Association des Centrafricains résidant aux États-Unis, qui va nous expliquer comment les femmes s'organisent entre elles au sein de USCWA. Merci beaucoup Sylvie d'être avec nous.
Merci de m'avoir invitée.
Alors, la solidarité entre femmes va-t-elle au-delà de la simple question pratique et n'y aurait-il pas là aussi une nécessité d'ordre moral ? La solidarité féminine exerce-t-elle une influence positive sur la société ? Ça, c'est la question qu'on a posée sur le Facebook de VOA Afrique. Et je commencerai par vous la poser ainsi. Vous avez donc créé donc cette section femmes de la communauté centrafricaine aux États-Unis. Et bien, finalement, pourquoi créer une section femmes ? Quels sont les besoins qui nous amènent finalement à séparer les hommes des femmes ?
Merci. Vous savez, les femmes, je peux dire, sont très fortes. Et on peut dire que les femmes sont, on dit en anglais, le backbone, c'est-à-dire
la colonne vertébrale.
De toutes choses. Et dans notre association, on s'est rendu compte que les femmes sont plus engagées dans différentes organisations, dans différents programmes que nous avons dans l'association. Et on s'est rendu compte, et les hommes ont dit, mais pourquoi ne pas donner une partie aux femmes pour qu'elles puissent se sentir plus libres.
Alors, c'est les hommes qui ont proposé.
Oui, et nous
c'est,
ont...
pas pour, c'est pas pour se débarrasser.
On ne s'est pas imposé et ils ne se sont pas débarrassés de nous parce qu'ils savent qu'ils ont toujours besoin de nous. Mm-hmm. Et vous savez, aux États-Unis, quand une femme est enceinte, et on fait une petite fête pour accueillir le bébé, mm-hmm. les hommes ne font pas ça. Donc, ils donnent ça aux femmes. Et tout ça, ça fait partie de nos programmes. Et les femmes se parlent mieux entre elles et se disent beaucoup de choses. Et des fois, quand elles sont en présence des hommes, c'est pas la même chose. Mm-hmm. Et donc, on préfère se retirer, parler des projets et venir proposer aux hommes pour leur dire, voilà ce que nous avons, qu'est-ce que vous en pensez ?
Mm-hmm. Est-ce que c'est dû un petit peu à la tradition africaine, finalement ? Parce que bon, quand on est là-bas en Afrique, on a plus de possibilités de se rencontrer entre femmes, entre amis, n'est-ce pas, que finalement dans cette vie que nous avons ici, là, dans ce mode de vie, on va mettre moderne, entre guillemets, n'est-ce pas?
Oui, je crois qu'ici, on nous donne beaucoup plus de possibilités que ce qu'ils faisaient avant d'être en Afrique, parce que on ne nous donnait pas cette opportunité plus souvent. Et maintenant, ici, on voit qu'on est plus motivé, plus évolué, plus éduqué, donc ils savent que on a quelque chose à apporter là-dedans. Mm-hmm.
C'est dans la presse.
Le mois dernier, une jeune Marocaine est décédée à l'hôpital de Tétouan, 4 jours après avoir été piétinée dans une bousculade au poste frontière de Ceuta. Âgée d'une 20aine d'années, elle transportait sur son dos de la marchandise, comme le font quotidiennement des milliers de femmes à ce poste frontière. En début d'année, les autorités de Ceuta avaient annoncé un renforcement des mesures de contrôle, notamment le poids et les dimensions des colis portés par les travailleuses journalières. Ces femmes vulgairement appelées femmes mulets, transportent parfois jusqu'à 70 kilos sur le dos, font plusieurs allers-retours dans la journée et se délobent. Elles sont traitées comme du bétail, selon Karima Omar El Ayachi de l'Association marocaine des droits de l'homme. En novembre, l'Association pour les droits de l'homme en Andalousie avait dénoncé la situation des porteuses de ceuta, estimée à près de 7000, qui transportent des poids trop élevés pour 10 euros par jour et subissent humiliations quotidiennes et traitements dégradants, avait dit l'association. Sylvie, est-ce que la vie occidentale demande plus de solidarité féminine que la vie africaine? Autrement dit, ici, les besoins sont différents qu'en Afrique, n'est-ce pas? Est-ce que il vous est conseillé, entre femmes, de vous entraider pour des points particuliers, je ne sais pas, pour les enfants, vous savez, faire garder un enfant aux États-Unis, ça coûte très cher, on n'a pas la famille, la grand-mère, etc., la cousine, voire les voisins qui sont là pour nous aider. Est-ce que vous avez le sentiment que cette solidarité est un petit peu mise à mal, justement, par les besoins occasionnés par ce type de vie?
Oui, tout à fait. Vous savez, aux États-Unis, quand une femme arrive, c'est différent par rapport à un homme. D'abord, elle est confrontée à des problèmes de langage, de l'anglais qui est là. Mm-hmm. Et dans notre association, on essaie d'aider les femmes qui viennent d'arriver, mm-hmm. d'aller à l'école.
Ouais.
On mm-hmm. les encourage d'apprendre l'anglais et on s'organise entre nous pour faire genre babysitting mm-hmm. pour celles qui ne sont pas autorisées à travailler déjà, peuvent aider les autres à garder leurs enfants pendant mm-hmm. que les autres femmes aillent au travail. Et tout ça, c'est notre manière à nous de nous entraider. Et aussi, on a des femmes dans la communauté qui parlent très bien l'anglais, qui peuvent aider les autres à pratiquer mm-hmm. tous les jours à parler l'anglais, à s'exercer et à aider leurs enfants dans leurs devoirs.
Et leur donner des cours carrément, leur donner des cours. Donc vous faites tout ça dans votre association.
On fait tout ce qu'on peut faire pour aider.
Ouais. Donc c'est vraiment solidaire.
On a des gens qui nous donnent des livres, des livres d'anglais qui nous ouais. permettent aussi de nous entraider. Mm-hmm. Sauf pourtant aller dans une classe ouais. physique et on peut être à la maison et puis apprendre.
Ouais. Vous avez même en fait des professeurs parmi vous. Donc en plus de ça,
je peux les dire.
On échange un petit peu nos services de cette manière-là.
Je peux les ouais. dire. Je peux ouais. les dire. Et aussi il y a des gens qui on sait aussi le français.
Mm-hmm. Formidable.
Parole de femme.
Une Congolaise et une Nigérienne parmi les lauréates 2017 du prix Femmes de Courage attribué par le département d'État américain. La jeune militante congolaise Rebecca Kabougou et le major Aïchatou Issaka Ousmane ont reçu leur récompense des mains de la nouvelle première dame Melania Trump. J'ai voulu savoir jusqu'où Rebecca Kabougou du mouvement citoyen Lucha comptait aller dans sa lutte.
Oui, je suis confiante de représenter la lucha et jusqu'où je veux continuer, je vais aller au-delà de moi, au-delà de ce que je pense. Je dois écouter mon cœur et ce qui m'anime toujours de plus pour que je puisse aller au-delà de ce que je suis en train de penser.
Rebecca, considérée comme la plus jeune prisonnière de conscience du monde lors de sa première arrestation en 2016, estime que l'engagement citoyen est l'affaire de tous.
Avec ce prix, d'autres femmes seront inspirées de commencer aussi la lutte. Le fait de rester fidèle, d'être déterminée, d'avoir ce courage, ça va encourager d'autres femmes à nous rejoindre dans la lutte. Les femmes doivent aussi prendre cette conscience que ce ne sont pas seulement les hommes qui sont là pour changer les choses. C'est à nous aussi de faire notre preuve de courage, notre preuve d'engagement, notre preuve de détermination de faire quelque chose.
Et de son côté, la lauréate nigérienne Aïchatou Issaka Ousmane encourage également l'intégration des femmes dans les opérations de maintien de la paix.
Il faut davantage des femmes dans les opérations de maintien de paix parce que quand on parle de maintien de paix, on s'engage auprès de la population locale et qui dit population locale parle d'hommes et de femmes. Donc on a besoin aussi de femmes qui puissent prendre en charge les préoccupations de ces femmes victimes des conflits et aussi amener leurs préoccupations afin qu'elles soient prises en compte. Il est important aussi de faire participer les femmes dans les maintiens de paix pour qu'elles puissent avoir l'expérience nécessaire et donner leur point de vue par rapport à la question des conflits.
Sylvie, est-ce que vous faites le lien, parce qu'on imagine quand même que dans la communauté de la diaspora en général, on a plus ou moins, ce sont généralement des couples, non, des femmes mariées, les époux travaillent à la Banque mondiale, c'est l'image peut-être un petit peu faussée qu'on a, mais on imagine quand même un certain niveau de vie de la diaspora, si on compare à l'Afrique toujours. Est-ce que vous avez dans la communauté des femmes qui sont vraiment dans le besoin financier, qui sont célibataires, qui n'ont pas d'emploi, qui ne s'en sortent pas avec les enfants ou des cas comme ça?
Si, il y en a des cas comme ça. Il y a, c'est pas tout le monde qui est marié, c'est pas tout le monde qui est célibataire. Donc, il y a des femmes qui sont venues, qui ont eu des enfants, qui n'ont pas de support. Et en ce moment-là, c'est en ce moment-là que l'association s'engage à aider cette femme-là à pouvoir trouver du travail. On a aussi des organisations, on a des contacts, on a des contrats avec d'autres organisations pour aider certaines femmes à trouver du travail, à avoir de l'aide au niveau du gouvernement pour les mamans qui ne sont pas qui n'ont pas de conjoint. Et aussi, il y a aussi d'autres, les messieurs qui sont là avec des enfants, qui n'ont pas de femme aussi.
Donc, ils sont dans le groupe des mamans aussi.
Les mamans.
Les papas.
Les mamans, ouais. Non, ils ne sont pas dans le groupe des papas. Mmh. Les mamans.
Vous leur apportez un soutien,
oui,
vous,
c'est
la section femme.
C'est là que la section femme est vraiment, vraiment engagée.
Ouais.
Et l'homme ne va pas se sentir seul parce que il va se retrouver avec beaucoup de mamans à la fois.
Oui. Et vous-même, Sylvie, qu'est-ce qui vous a amené à décider d'être la présidente de cette association?
Beaucoup de choses, pour des raisons, je peux dire politiques aussi, et parce que c'est pas toujours que des hommes qui peuvent faire.
C'est par rapport à ce que disait Rebecca, c'est ça, vous pensez la même chose?
Tout à fait. Je pense que la femme est très intelligente, la femme a beaucoup de potentialité, et si on lui donne l'occasion, elle va le prouver, elle va le faire. Mm-hmm. C'est pour ça, ce qui m'a poussée, c'est qu'il y a toujours eu des hommes dans notre organisation, il y a toujours des hommes présidents, et souvent on prend la femme comme la trésorière, comme on a trop confiance aux femmes. J'ai dit non, mais c'est pas toujours que des femmes qui doivent garder l'argent parce que vous avez confiance. Donnez-nous des postes qui peuvent nous permettre de nous exprimer, d'apporter notre soutien aussi
des postes plus créatifs que la simple trésorerie, les finances,
tout à
et
fait.
Toutes ces choses-là.
Tout
oui.
à fait.
Des jeunes trouvés.
Les étudiants handicapés de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar éprouvent des difficultés pour passer leur cursus académique. Et quand ils y parviennent, leur intégration dans le monde professionnel est un défi de plus. Je vous propose d'écouter ce reportage de Seydina Abagay.
Les étudiants à mobilité réduite bénéficient d'une bonne prise en charge sociale, mais ils ont d'énormes difficultés au niveau académique. De l'absence de sièges adaptés à leur handicap ou au surpeuplement de l'espace universitaire, les étudiants handicapés vivent parfois un véritable calvaire. Le président Mohamedou Camara explique leur peine.
Bon, c'est toujours difficile. Cela même fait l'objet de l'échec de certains étudiants. Des personnes valides précipitent pour prendre des places. Alors que la personne qui a un handicap a un problème, il ne peut pas courir et il ne peut pas se précipiter pour prendre la place. Parce qu'un étudiant qui vit avec un handicap, il n'a pas trouvé une place. Donc quand il est derrière, il ne peut pas prendre les cours comme il le faut. Donc à ce niveau-là, il y a toujours ces problèmes-là. Quoi.
Selon lui, ces difficiles conditions d'études conduisent fréquemment à l'échec de ses camarades handicapés. Il demande des infrastructures adaptées aux personnes à mobilité réduite.
Un étudiant qui est sur une chaise roulante ne peut pas faire ses salles de télé au deuxième ou au troisième étage. Ils avaient vu un exemple potentiel quand j'étais en deuxième année ici. Et un étudiant qui est au département de philosophie, qui devrait faire son TD, on lui a demandé d'aller au troisième étage. Il faut arriver à la salle, il ne peut pas monter. Tout cela a contribué de son échec. Donc vraiment, je demande à ces autorités-là qu'ils voient comment construire les salles, les amphithéâtres et réserver des places aux étudiants déficient, handicapé.
Ces difficultés sont aussi ressenties dans le monde professionnel et dans la société, comme l'indique Elhaji Mohamed Gueye.
On le vit de manière très difficile parce qu'il y a pas mal d'infrastructures actuellement qui sont construites, qui sont modernes, alors que les règles de prise en charge pour les personnes à mobilité réduite ne sont pas respectées. Alors du coup, même là où je travaille, j'ai une fois approché notre RH pour lui dire que ça c'est pas du tout normal qu'on puisse faire vraiment des édifices aussi énormes qu'on dépense des milliards et des milliards alors qu'on ne puisse même pas prendre en charge les personnes à mobilité réduite, aussi bien à l'université, dans les sociétés, partout on le remarque.
Au Sénégal, les infrastructures commencent peu à peu à s'adapter aux personnes à mobilité réduite. Des bus et édifices publics récemment réceptionnés ont tenu compte des sensibilités des handicapés. Mais ces derniers attendent plus et mieux de la société et des autorités. Sidina Abagui, à Dakar, pour VOA Afrique.
Que la jeunesse pouvait.
Sylvie Doris Dangar, j'en ai profité pendant le reportage pour vous faire travailler un peu, c'est ça. Hein, vous allez nous lire quelques commentaires de nos Facebookers, les auditeurs de La Voix de l'Amérique. Je vous écoute, on vous écoute.
Omar Boulalé Nassar dit l'union fait la force et la promotion et l'émancipation de la femme dépend de la solidarité entre femmes.
Voilà, qu'est-ce que vous en pensez?
Je crois que ça c'est une très bonne idée pour dire que l'union
fait la force. Vous en avez un autre?
Ouais. Et on dit Martin Bidibois, ouais. Dans la société africaine et ailleurs, la femme reste la personne la plus influente. De ce fait, je reste convaincue que la collaboration et bonnes relations entre les femmes ouvrent la porte de la réussite dans les divers domaines de la société.
Intéressant, hein. Ainsi, troisième.
Et le troisième, il dit, c'est Diarra ouais. Kouyoumé. Il dit, les associations des femmes sont nombreuses dans mon pays, surtout à Bamako. Et Nathaliba, merci votre oui. Merci pour votre fidélité. Et je crois qu'elle voulait parler de vous.
Hein. Oui, c'est ça.
Même si je suis un homme, mais j'aime cette émission.
Voilà, merci beaucoup. En effet, voilà. C'est une émission, effectivement, faite pour les femmes, les hommes, un petit peu tout le monde. Merci, Sylvie. Un grand merci. Dites-moi, justement, la solidarité, là, on a lu des commentaires d'hommes. La solidarité féminine, comment ils prennent ça, les hommes, selon vous? Est-ce qu'ils aiment bien savoir que les femmes sont solidaires ou ça peut les déranger un petit peu par rapport à certaines choses?
Ben vous savez, je crois qu'il est temps que les hommes puissent laisser leur ego et considérer que la femme a beaucoup d'atouts et nous donner l'opportunité de les prouver et en faisant, par exemple, en organisant, en ayant des associations des femmes, on a toujours montré aux hommes qu'on peut le faire. Par exemple, là, les femmes de notre association ont fait des collectes de fonds pour envoyer aux enfants de Centrafrique après la guerre. Et ça continue parce qu'on a beaucoup d'autres projets pour le pays. C'est pas seulement ici au niveau des États-Unis, mais on a d'autres projets au niveau du pays pour aider les femmes au pays.
Ça, c'est des choses que les hommes font plus rarement, par exemple. Un petit peu les femmes, en général, elles sont, surtout les femmes de la diaspora, elles font bien ce genre de choses. Je voudrais lire un autre commentaire d'Alphonse Mbouaki qui dit « Dans les milieux ruraux, les femmes s'unissent et font le labourage dans le champ des unes et des autres à tour de rôle. Cette sorte d'union sacrée donne un grand champ pour chacune d'elles. » C'est beau, n'est-ce pas? Il dit aussi « Mon épouse vendeuse de beignets s'est engagée dans une entente entre femmes du quartier au quotidien. » Chacune verse 2000 francs à l'initiatrice de la ristourne. Elles sont au nombre de 14. Chaque jour, la chef récolte 28 000 francs. Chaque dimanche, deux d'entre elles bénéficient du versement de la semaine, soit 28 000 fois 7, ce qui donne 196 000 francs, francs congolais, divisé par deux mamans, chacune obtenant donc 98 000 francs.
Mais ça, c'est bien ça.
Ouais.
Ça c'est bien, ça c'est ça c'est encourager, voir les femmes qui se battent, qui font des choses comme des hommes, mais c'est terrifique.
Et ça c'est vraiment des initiatives qui viennent de la communauté féminine elle-même, quoi. C'est les femmes qui se rencontrent et qui discutent entre elles et qui et c'est un moyen de survie aussi, ça, non?
Tout à fait. Ouais. Regarde, à ce niveau-là. Ce montant qu'ils arrivent à mettre ensemble.
C'est les coopératives.
C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable.
Entre parenthèses.
En appui aux marraines qui exigent un tribunal pénal international pour la RDC afin d'éradiquer le viol comme arme de guerre, hein, Sylvie. Des femmes ont lancé une pétition à Bukavu. Vinciane Sinama, présidente de la Ligue des femmes du CRID, dans un reportage d'Ernest Mouero dans la capitale du Sud Kivu. On va l'écouter maintenant et c'était au mois de mars.
Nous devons nous mettre debout et montrer comment nous sommes fortes et nous pouvons faire tout pour que ce tribunal-là soit instauré ici au Congo. Nous sommes allés vers les différents coins de la ville. Vraiment, les gens sont très contents et veulent qu'on amène ce tribunal même aujourd'hui. Pour le moment, nous avons plus de 10 000 signatures.
Micheline Bagoma, journaliste et habitante de Bukavu, explique qu'elle a signé la pétition pour que la femme congolaise soit recouvrée dans sa dignité et qui cesse les violences impunies en RDC.
On en a marre vraiment avec la violation de femmes par-ci, par-là. On veut juste une justice qui peut nous aider à punir les violeurs parce qu'on essaie de chanter chaque jour aux médias, mais il n'y a rien de solution. Les femmes qui sont victimes du viol, ils sont vraiment blessés intérieurement, moralement et physiquement. C'est pour cela que j'ai choisi de signer parce qu'on en a marre, c'est assez.
À l'hôtel des postes de Bukavu, en commune d'Ibanda, je rencontre en plein échange la volonté du CRID, Yvette Ansouli, brandissant à ses interlocuteurs un registre des signatures de la pétition. Pour elle, il s'agit de convaincre pour le bien de tout un peuple meurtri.
Il y en a qui nous accueillent facilement et il y a d'autres qui doutent, mais nous sommes en train de leur convaincre pour avoir un maximum de signatures parce que les femmes ont beaucoup souffert par rapport à cette question. On a utilisé des viols comme armes de guerre pour détruire les femmes. Donc nous, les femmes de CRID, nous voulons avoir un changement positif pour notre pays.
Cacha précise que des milliers d'autres citoyens du monde signent cette pétition afin que les violences à répétition et crimes commis en RDC ne restent pas impunis. Le CRID est une formation politique congolaise dirigée par Amou Liretsi, ancien président de l'Association des avocats du tribunal pénal international pour le Rwanda. Ernest Mouro Bukavu, VOA Afrique.
Si vous aviez le mot de la fin à dire, parce que c'est ce que vous avez à dire, c'est ce que je vous demande, on arrive au terme de l'émission, le mot de la fin sur la question de la solidarité féminine, je ne sais pas, vous voulez faire un petit tour en Centrafrique pour ce mot de la fin?
Oui, je voulais dire à toutes les femmes de l'Afrique et celles de Centrafrique d'être toujours unies. Parce que l'union fait la force, comme avait dit l'un de nos amis tout à l'heure. Soyez fortes, soyez combatives tout le temps et vous allez réussir. Et ensemble, nous allons réussir.
Un grand merci Sylvie Doris Danga d'avoir participé à l'émission Le Monde au Féminin. Un grand merci à Georges Léonard Sagnot à la production, à Fredner Kayemit qui nous a filmé. Un grand merci à nos auditeurs, bien entendu, à nos auditeurs, nos Facebookers, et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.